Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille de Vélo Club. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les grosses épreuves World Tour qui se sont déroulées la semaine prochaine. Alors, on avait Tirreno Adriatico d'un côté et Paris-Nice de l'autre. On va débuter, si vous le voulez bien, ce petit tour d'horizon de la semaine écoulée avec Paris-Nice. J'ai sélectionné plusieurs aspects qui me paraissaient être intéressants à analyser ou à décortiquer. On va tout d'abord commencer par le Paris-Nice des coureurs français, un Paris-Nice très décevant, on va pas se raconter d'histoire, on s'attendait quand même à beaucoup mieux de la part des coureurs tricolores. On peut se pencher tout d'abord sur le classement général, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun Français dans le top 10, le mieux placé c'est Aurélien Paré-Peintre. Si on se focalise un petit peu sur les classements annexes, le classement du meilleur jeune Jorgensen, le classement par points Remco Evenepoel, idem pour la montagne, quant au classement par équipe on en est bien loin côté français. Bref, on s'aperçoit que non seulement il n'y a pas de top 10, mais en plus on n'arrive même pas à choper un maillot distinctif, des maillots qui ne sont pas archi disputés. Et pour compléter un petit peu cette mauvaise semaine des coureurs français, on peut aussi signaler qu'il n'y a pas de victoire d'étape. Pire encore, lorsque je suis allé regarder les statistiques des différentes journées de ce Paris-Nice, on s'aperçoit que la meilleure place d'un coureur français, contre la montre par équipe inclus, c'est sixième. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas de victoire, on n'a pas de podium, on n'a pas de top 10 au classement général. Et comme je l'ai dit, aucun maillot annexe, donc c'est quand même assez compliqué ce Paris-Nice des coureurs français. Alors, diverses raisons à ça. Les meilleurs tricolores étaient peut-être présents sur les routes de Tirreno Adriatico. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de cyclisme à deux vitesses qui se met de plus en place. Et ça, je pense que c'est un facteur qu'il ne faudra pas négliger dans les semaines et dans les mois à venir, parce qu'on s'aperçoit quand même un petit peu qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. Bref. On va poursuivre notre analyse et notre retour sur ce Paris-Nice. Un des petits coups de cœur que j'ai eu moi dans la semaine, c'est la Tudor de manière générale et Arvid De Kline en particulier. La Tudor, j'ai l'impression que plus ça va, plus elle s'installe en tant que troisième équipe pro team dans la hiérarchie, derrière Israël Premier Tech et derrière Lotto Destiny, mais devant InnoX, devant Total, etc. Et la preuve en est. Eh bien, c'est cette belle victoire d'Arvid De Kline lors de ce Paris-Nice. C'est quand même assez rare pour une formation de deuxième division d'aller claquer une étape au sprint sur Paris-Nice devant quelques-uns des meilleurs sprinteurs du peloton. Et voilà, je voulais quand même souligner une fois la belle forme et les belles performances de la Tudor qui s'est aussi montrée consistante lors de Tirreno Adriatico. Donc c'est un de mes coups de cœur de la semaine, Arvid De Kline et la Tudor qui s'en sortent très bien, je trouve, sur le plan sportif lors de la semaine écoulée. Le malchanceux de la séquence, je trouve que c'est Santiago Buitrago. Santiago Buitrago qui avait été très bon et très malin lors de l'étape du Mont-Brouilly, qui s'était échappé avec Lucas Plap. Mais malheureusement, Santiago Buitrago, il a été victime de plusieurs coups du sort. Il était vraiment, je trouve, très très bien placé pour remporter Paris-Nice. Malheureusement, une chute dans une descente, une deuxième chute lors de la dernière étape et un DNF, alors qu'après cette étape du Mont-Brouilly et sa victoire, il paraissait quand même être en situation idéale pour remporter la course. D'autant plus qu'on l'a vu, Remco Evenepoel n'était pas impérial. Donc je pense que ça aurait été très très compliqué d'aller le chercher au classement général. Et c'est vraiment le malchanceux de la semaine, Santiago Buitrago, le leader de la Bahrain Victorious. Ensuite, on peut se focaliser sur l'avant-dernier aspect que j'ai retenu, c'est Laurens Pitti. Laurens Pitti, je trouve, ouais, c'est mon vrai coup de cœur, je pense, sur ce Paris-Nice. Un coureur qui, en plus, a l'air très attachant, très régulier tout au long de la semaine. Troisième de la première étape, deuxième de la seconde. On va rechercher un top 10 lors de la cinquième. Et surtout, pour Laurens Pitti, on a porté le maillot jaune de leader de Paris-Nice, qui, pour un coureur de 21 ans, est plutôt une très belle chose et une belle performance. C'est un coureur plein de promesses. On l'a vu gagner pour la première fois en World Tour la Cadel Evans-Swiss. Ensuite, on va porter son premier maillot de leader sur une épreuve du World Tour, en l'occurrence Paris-Nice. Donc on verra s'il y a une victoire sur les classiques dans les semaines à venir. Mais en tout cas, voilà, c'est mon vrai coup de cœur de la semaine, Laurens Pitti, qui a vraiment réalisé un Paris-Nice très très bon, et qui sauve un petit peu le Paris-Nice, tout simplement, de la Groupama FDJ, parce que pour diverses raisons, encore une fois, Les autres coureurs de l'équipe n'ont pas forcément, se sont pas forcément montrés au niveau, même si c'est pas de la faute de David Godu qui a chuté, donc forcément ça a rendu la fin de sa semaine un petit peu plus compliquée. Bref, le dernier aspect que je voulais aborder, je suis désolé parce que j'ai un petit chat dans la gorge et j'ai pas d'eau à proximité, c'est Remco Evenepoel. On va parler un petit peu plus tard, je pense, dans la journée ou dans la semaine, de Jonas Vingegaard, des Cador, de Tadej Pogacar, etc. Mais là, pour l'instant, et je ne me base pas que sur Paris-Nice, j'ai l'impression que c'est un petit peu une constante, surtout sur les courses par étapes. Plus on avance, plus je me dis, et pour moi, c'est clairement une bonne nouvelle. Enfin, de voir un coureur humain, on ne pourra pas s'en plaindre. Mais voilà, Remco Evenepoel n'est pas trois jambes au-dessus de la concurrence lorsqu'il prend le départ d'une course par étape. On l'a vu, il a été battu sur Paris-Nice. Je ne pense pas que c'était le plus fort de la course. Pour moi, Jorgensen était le plus costaud tout au long de la semaine. J'ai même eu l'impression hier, lors de la dernière étape, que s'il avait voulu, dans le col des quatre chemins, il aurait pu attaquer Remco Evenepoel et le mettre en difficulté. Je pense que Remco Evenepoel l'a compris et qu'il n'a pas cherché, pour cette raison, à changer de rythme, qui s'est dit que déjà une victoire d'étape sur Paris-Nice, c'était quelque chose de pas mal à apprendre. Bref, Remco Evenepoel n'a pas été le plus fort, son équipe n'a pas été la plus forte, clairement, elle n'a pas été en mesure de mettre en difficulté les autres formations du peloton, et au final, on s'aperçoit que ben, Remco, il termine deuxième, a quand même une trentaine de secondes du vainqueur Matteo Jorgensen. Alors il est devant McNulty, devant Skelmose, devant Plapp, etc. Mais c'est pas non plus des coureurs qui sont en mesure de remporter le Tour de France. Et certes, Roglic est encore plus loin, mais Roglic, on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément dans la forme de sa vie. Et pour moi, ça confirme que ça sera très compliqué, je pense. En tout cas, avec Pogacar et avec Vingegaard au départ, de remporter le Tour de France pour Remco Evenepoel. J'ai l'impression que Remco Evenepoel, c'est le meilleur des coureurs qui apparaissent humains sur un vélo. Alors, chacun tirera les conclusions qu'il souhaite de ce terme que j'utilise, humain. Chacun mettra le curseur là où il veut. Mais voilà, moi j'ai l'impression que Remco Evenepoel, c'est un excellent coureur, un coureur qui a un moteur exceptionnel, mais qui a des défauts comme tous les coureurs normalement du monde. C'est-à-dire qu'il peut avoir des trous d'air, il peut être mis en difficulté, il ne peut pas attaquer 50 fois dans une côte ou produire un effort qui met tout le monde dans le rouge et foutre la concurrence à 3 minutes. En tout cas, pas sur une course par étape, parce qu'on l'a vu sur Liège ou sur d'autres, il est capable. Mais voilà, enfin, il n'en est pas capable tout le temps, toujours, et sans avoir l'air d'être fatigué. Donc encore une fois, c'est bon signe, je trouve, sur le plan éthique. Mais sur le plan sportif, ben malheureusement, ça le met en difficulté parfois par rapport à d'autres coureurs. Et donc, ben Remco Evenepoel n'a pas remporté ce Paris-Nice, qui me permet de faire le lien avec Jorgensen. Jorgensen, on se doutait que ce serait la nouvelle révélation de la Visma Lease a Bike une fois qu'il aurait été transféré de la Movistar. Ça n'a pas loupé. Alors certes, c'est un très bon coureur, mais voilà, il se retrouve dans une situation où c'est le plus fort de Paris-Nice. Encore une fois, chacun en pensera ce qu'il en souhaite. Mais ça confirme une chose, la Visma Lease a Bike est encore une fois partie sur un rythme assez effréné, avec Vingegaard qui écrase Tirreno d'un côté, et de l'autre, Jorgensen qui gagne Paris-Nice, avec un Olaf Koy en plus dans un autre registre qui domine les sprints de cette course au soleil. Donc bah, la Visma est repartie plus ou moins sur les bases de la saison 2023. On verra ce que ça donne, bien entendu, dans les semaines et dans les mois à venir, mais ça part très très fort. Bref, j'espère que cette petite pastille vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, pardon, et on se dit à très bientôt. Ciao!